où dans certains rayons les gens seront mieux payés que les autres, ça va provoquer un B formidable.
En tout cas, dans les prévisions actuelles, et là peut-être Serge doit avoir aussi une opinion, dans les prévisions actuelles d'harmonisation, je n'ai pas entendu parler d'harmonisation des excès que l'on constate en France.
On parle beaucoup, mais les socialistes, car c'est contraire à leur logique intellectuelle et à leur doctrine, sont incapables de procéder à cette harmonisation, et c'est pour ça que ces échéances sont un grand danger. Car il faut savoir qu'à travers ce qui vient d'être décrit par notre ami Descaves, il y a une logique. Qui est que sous couvert de protection sociale, en fait, on taxe les salaires. Car, ma foi, je ne pense pas que ce soit une contribution volontaire.
Le taux
est fixé autoritairement, on n'a pas le choix, on paye à un seul organisme, etc., qui ne s'appelle pas l'État, mais qui, de toute façon, est géré de manière encore plus irresponsable que l'État, car il n'est pas contrôlé par le Parlement, bien que les sommes mises en jeu soient supérieures à celles du budget de la France.
Absolument.
Donc, des organismes paritaires irresponsables récoltent autoritairement des sommes très importantes et qui sont actuellement, qui représentent presque, enfin pas tout à fait, la moitié des prélèvements totaux. Or, on constate, si on regarde tous les chiffres dont nous avons parlé, qu'en France, finalement, c'est les salariés qui sont taxés. C'est les salaires. C'est-à-dire que la protection sociale, c'est un tas de choses. C'est le chômage, c'est l'assurance maladie, c'est la vieillesse,
etc. Les allocations familiales distribuées à tout le monde.
C'est tout ce qui consiste, de la part des socialistes, à redistribuer, à prélever, etc. Et il y a quand même là un anachronisme, c'est que c'est finalement le travail qui est taxé. C'est le travail essentiellement. Tu as donné quelques chiffres sans vouloir trop entrer dans les chiffres, parce que c'est toujours très très barbant. On peut dire que les cotisations sociales, les sommes prélevées à titre de cotisations sociales, donc pour une forme de redistribution, c'est 19,2% du total des prélèvements. Alors que, par exemple, au Royaume-Uni, c'est 6,8%. Plus de 3 fois plus en France, etc. Donc, on taxe le travail. De ce fait, pour être compétitif, les patrons, qui sont toujours les gros vilains, comme on le sait, et qui sont vilains pour ceux qui gèrent la sécurité sociale, c'est-à-dire les syndicats, finalement, hein, les patrons sont obligés de tasser les salaires vers le bas. Donc, éventuellement, de faire appel, c'est un prétexte qu'on nous donnait il y a quelques années, à une main-d'œuvre qui voudra bien faire le travail, que les Français ne veulent pas faire, parce qu'on les paye mal. Mais on les paye mal parce qu'on est obligé de tasser les prix vers le bas. Et pour redistribuer ces prélèvements obligatoires qui sont pompés sur les salaires, vers ceux qu'on va assister ensuite, et on sait très bien que les immigrés notamment en profitent largement, puisque les balances sont très déficitaires en faveur des nationaux, et que par contre les immigrés perçoivent de nombreuses fois plus
milliards,
que ce qu'ils touchent. Donc, on baisse les salaires, ce qui fait qu'on a forcément affaire à une main-d'œuvre sous-qualifiée, parce que pas motivée.
Et sous-payée.
Il y a autre chose qu'il faut signaler, et qui est une divergence avec l'Allemagne, c'est que il y a également un effort de formation professionnelle qui ne peut plus être fait, car on ne peut pas prélever des crédits supplémentaires, ça serait descendre encore les salaires, et donc impossible. Alors, il y a d'une part des gens non motivés et des gens moins qualifiés, parce que formés beaucoup moins que ce qu'on les forme en Allemagne. Et voilà le défi qui se présente à la France. Alors, harmonisation, pour harmoniser, il faudrait réformer, mais complètement, la structure de nos prélèvements totaux, sociaux et autres, et qui plus est les réduire, car on a oublié de dire quelque chose, c'est que le total des prélèvements en France est de 45% du produit national brut, c'est-à-dire que quand un Français produit pour 100 francs,
entre 37,
on prélève 45% au total, pour le redistribuer,
37,
etc. Au Japon, 30. Et vous
ne comptez pas la TVA là-dedans.
Ah oui, tout
non,
est
non, mais on en parlera tout non, à l'heure de la TVA, non. Parce qu'il y a une erreur monumentale qui est commise.
C'est le total. Donc, c'est-à-dire que nous avons 50% de prélèvements de plus en France qu'au Japon. Parce que l'État se mêle de redistribuer. Et voilà ce que donne la redistribution. Donc,
je voudrais dire deux choses. La première, c'est que M. Claude Reichmann vient de faire son entrée dans le studio. Alors, il est l'auteur de ce livre qui s'appelle La Révolution des Termites, qui est un merveilleux petit bouquin de politique fiction, un pamphlet de politique fiction. Mais il est également auteur dramatique, mais ça n'est pas ce sujet qui nous intéresse ce soir. Il exerce d'importantes responsabilités dans le monde médico-social et associatif. Alors je pense qu'il est très bien, je ne savais pas ça, je l'ai découvert à l'instant, et je pense qu'il est très bien placé pour participer à cet entretien, d'autant que, nous dit la notice qu'il présente, il connaît parfaitement les arcanes de l'administration et de l'État, et que son livre, qui a été préfacé par Raymond Barre,
c'est pas une très bonne référence pour le sujet qu'elle note.
En tout cas, démontre que L'effondrement des structures vermoulues de la bureaucratie en France n'est pas du tout une catastrophe. Alors, c'est un livre d'espérance, en tout cas, un peu.
Tout à fait.
On peut le lire avec plaisir. Il est très, très amusant. Il est très bien écrit, en plus. Et en sortir avec espérance. La deuxième chose que je voulais dire, alors ça, c'est très grave, ou très important, ou totalement nul, je ne sais pas. Un auditeur téléphone en disant « Ne bâtissez pas votre émission sur des chiffres faux, vous dupez les auditeurs. » Toutes les prévisions disent que les coûts salariaux en France sont très inférieurs à ceux de l'Allemagne, voire l'étude faite par le directeur financier de Saint-Gobain.
Oui.
Alors,
non mais monsieur Saint-Gobain, alors là, je ne sais pas ce qu'a écrit Saint-Gobain, mais moi je ne veux pas me référer à des chiffres qui sont donnés par Pierre ou par Paul, je ne connais que des chiffres indiscutables, ce sont ceux qui sont donnés par les administrations qui sont chargées de les établir. Le Conseil des impôts a ce rôle, comme le centre d'études des revenus et des coûts.
Je pense que si le Conseil des impôts...
qu'à ça et à rien d'autre.
Je pense que si le Conseil des impôts avait pu établir la supériorité de la France sur l'Allemagne dans ce domaine précis, ça n'a pas fait faute de le signaler. Évidemment. Donc je pense que le Conseil des impôts est mieux placé pour avoir des chiffres exacts que le directeur, même financier de Saint-Gobain. Je ne sais pas si c'est mon idée, monsieur
d'autant Richman. D'autant plus que je peux te dire quelque chose, qu'en matière de chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi. Et Disraeli avait dit que dans le degré du mensonge, il y avait 3 degrés. Il y avait le mensonge, le satané mensonge et la statistique.
Bon, alors... Bien. De toute façon, je crois qu'il n'est pas important de se battre sur des points ou des virgules, car le problème n'est pas là.
Je crois que c'était intéressant.
Monsieur, notre but, c'est de faire comprendre autre chose. C'est pas de dire c'est 0,3%. C'est une mentalité. Et là, je vais encore parler avec ma mentalité de patron et d'ancien patron. Même si le coût final de la main-d'œuvre est de 1% ou 2%, ce que j'ignore, je n'ai pas la possibilité de faire des statistiques au niveau national et qui soient exhaustives et vraies. Je me demande si quelqu'un peut le faire, d'ailleurs. Mais ceci étant, même si le coût de la main-d'œuvre en France est de 1% de moins qu'en Allemagne, la répartition, et ça, c'est incontestable, des coûts à l'intérieur de ce que revient les salaires. Je veux dire, les charges sociales plus le salaire est telle que de toute façon, le salaire perçu par l'employé, par celui qui travaille, par celui qui a besoin d'être motivé, est inférieur en France, parce que les prélèvements sociaux pompent une part beaucoup plus importante en France qu'en Allemagne. Donc on a forcément des gens, étant moins payés, moins motivés. Et on peut dire aussi, car ça rentre dans ce coût global, que la formation, les crédits formation en France, et là encore, la France est occupée de faire des taxes, des impôts, etc., qui sont le meilleur moyen de détourner de leurs objectifs les prélèvements réellement effectués, des taxes pour forcer les entreprises à faire de la formation, etc. Donc le sport national, c'est de voir comment on va pouvoir ne pas payer ou récupérer cet impôt par des billets divers, alors que les entrepreneurs souhaitent avoir des employés, des travailleurs performants. Et que par conséquent, il est aujourd'hui incontestable que tout employeur qui a un souci de la pérennité, de la compétitivité de son entreprise, a soin de former son personnel. Seulement, pour former, il faut des capitaux. Et là, c'est pareil, en France, les prélèvements sociaux autoritaires sont tellement forts que les crédits qui restent pour la formation sont bien plus restreints. Et conclusion, on a de toute façon, même si on est à 1-2%, au niveau final du coût global, on a des employés ou des ouvriers moins payés, donc moins motivés, et moins de crédit pour la formation, et une formation moins performante encore, parce qu'on rentrerait dans le débat de l'éducation nationale, et là on ne s'en sortirait pas, et donc des gens moins performants. Donc moins performants et moins motivés.
C'est un
drame pour la production.
Mais il y a quand même une constatation à laquelle on doit finalement donner le plus de crédit, c'est que cette redistribution, elle se fait au détriment des plus pauvres. Mais enfin, il faut bien comprendre. On prend de l'argent aux salariés qui travaillent, qui produisent, pour le donner à des gens qui ne produisent pas. Et c'est ça qui est scandaleux et qu'on ne dit jamais chez les salariés. Ils votent socialistes ou communistes en croyant que ça va leur amener du beurre dans les épinards.
Communistes, de moins en moins, quand même.
Mais il y en a qui continuent à croire au lendemain qu'ils chantent, alors qu'on est en train de leur prendre le fruit de leur travail. Et ce que nous proposons et ce qu'il faut proposer, c'est de rendre aux salariés la majeure partie du fruit de son travail.
Alors un auditeur dit d'ailleurs qu'il suffit de consulter sa feuille de paye pour découvrir l'ampleur des dégâts, puisque maintenant... Les feuilles de paye indiquent le montant de la part salariale.
Non, et patronal, les deux.
Patronal et salarial,
les deux. Les deux. Mais c'est insuffisant, mon cher Serge. Oui. C'est que tant que tu donneras pas au salarié le pognon, en lui disant voilà ce qui vous revient, le fruit de votre travail, le voilà. Maintenant, il faut assurer votre protection sociale. Et qu'on leur reprend les 45% de ce qu'on leur a donné, eh bien c'est là, crois-moi, que les gens commenceront à se dire, mais c'est vrai qu'on est volé. Parce que si on prenait des assurances personnelles, parce que si on allait dans une mutuelle ou dans une compagnie d'assurance, eh bien on payerait moins.
Mais enfin, Pierre, tu sais très bien que si on donnait l'argent à l'ouvrier, il irait le boire.
Non mais ça...
Ça c'est la vue socialiste de
Ça que les socialistes considèrent les hommes avec mépris, moi je ne partage pas du tout cet avis. Je pense que les gens sont suffisamment responsables et de toute manière les compagnies d'assurance auraient un cahier des charges.
Ce que je crois, c'est que de toute façon, l'assurance automobile n'est pas prélevée directement sur le salaire, pour autant que je sache. Et il y a quand même assez peu de gens qui roulent sans assurance, à part les garçons coiffeurs dont parle très drôlement un de nos auditeurs.
Il faudrait ajouter, car on oublie, la feuille de paye n'est pas une feuille de paye tout à fait vérité, car il y a d'autres prélèvements sur les salaires qui sont annuels et sous d'autres formes, et qui ne sont pas inclus dans la feuille de paye, donc il y a des sommes bien supérieures. Mais de toute façon, bon, on peut peut-être rentrer dans la sécurité sociale, je suis tombé, avant de venir sur ce débat, je garde des courbes, des chiffres, etc.
T'aimes bien les courbes.
Oui, parce que ça parle bien.
Il veut faire un article tout le temps dans les papiers des courbes et des chiffres.
Sur un article du Monde daté du 29 septembre, un article économique qui parle de la gestion du personnel de la sécurité sociale. Et il y a des choses qui sont atterrantes. On sait de plus, je crois qu'il y a des grèves, des manifestations, ces employés-là, la sécurité sociale, c'est s'ils mal payés, et c'est certainement vrai. Mais on peut remarquer d'abord qu'ils sont 180 000 pour gérer la sécurité sociale. Il faudrait rapporter ça au nombre de médecins. Et je crois que c'est supérieur.
Effectivement, c'est une très bonne comparaison. Elle peut paraître un peu démagogique, mais en fait, elle ne l'est pas du tout, parce que la démagogie, ça n'est pas de dire des choses vraies. La démagogie, c'est de dire des choses fausses, et de les faire de prétendre qu'elles sont vraies. Alors, en l'occurrence, je vais vous donner, plutôt que de jouer sur de très grands chiffres, je vais vous donner un ordre de grandeur. Bon, j'exerce une profession médicale, et mettons que je signe chaque jour une dizaine de feuilles d'assurance maladie. Bien, chacun de mes confrères, puisque nous sommes environ 180 à 200 000, fait la même chose que moi. De l'autre côté, le même nombre d'employés à la sécurité sociale a traité ces feuilles d'assurance maladie. Donc, un praticien pour un employé de la sécurité sociale. Quand je travaille 10 heures par jour, je travaille peut-être 9 heures à faire mes soins et 1 heure à faire des papiers. Eh bien, l'employé de sécurité sociale a 8 heures par jour pour traiter mes 10 feuilles. Voilà à peu près le rapport de
France. C'est pas mal vu.
Un employé de la sécurité sociale derrière chaque docteur.
Ouais. Voilà.
Huit employés de la sécurité sociale derrière chaque docteur.
Oui, à une heure chacun.
Mais il ne faut pas les condamner, ces gens-là, parce que ce serait les traiter d'incompétents, etc. Mais je vais citer la courbe qui est juste au-dessous et qui nous indique la chose suivante. Quand un employé de la sécurité sociale rentre en début de sa carrière, il est à l'indice 100 de salaire. Bon, on sait déjà que cet indice est bas. C'est évident, et que le salaire sera bas, car il est mal payé. Eh bien, au bout de 10 ans, cet employé a atteint le maximum de ses possibilités. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans de carrière, il rentre à 20 ans, à 30 ans, cet individu n'a plus aucun espoir
de progression.
Aucun, et va donc attendre la fin de sa carrière professionnelle sans aucun espoir. Alors, comment peut-on obtenir un service dynamique, efficace, avec des gens complètement démotivés, mal payés déjà, etc. Donc on remplace la motivation, on remplace la volonté de faire mieux par la quantité. Exact. Et on atteint effectivement 180 000 salariés. Et on a une machine qui, comme l'URSS, complètement en faillite, est totalement en faillite. Voilà, le système, il est là.
Mais je veux dire, ce que tu dis à propos des employés de la sécurité sociale me fait penser à une chose que j'ai apprise ce week-end. Certains sous-officiers de l'armée qui ont 20 ans de carrière travaillent gratuitement, c'est-à-dire qu'ils pourraient prendre leur retraite aujourd'hui et vivre en gagnant très exactement la même chose comme retraité que comme sous-officier en service. Moyennant quoi, ils feraient d'ailleurs un autre boulot en plus et ils doubleraient leur retraite, ce qui est autorisé. Donc les gens qui travaillent, les militaires, les sous-officiers, je ne sais pas si c'est le cas pour les officiers, j'en sais rien, mais pour les sous-officiers, pour certains sous-officiers qui ont des campagnes, c'est le cas, je pense notamment à des sous-officiers de Légion étrangère. Eh bien, ces gens-là travaillent pour la gloire. Ils travaillent sans être payés puisqu'ils touchent exactement le montant de leur retraite. Donc, c'est très différent. Ça ne procède pas du même genre de réflexion que celui que tu faisais sur la sécurité sociale, mais c'est vrai qu'un système, une fonction publique, si on considère que les militaires font partie de la fonction publique, dans laquelle, à partir d'un certain niveau d'un certain temps de travail et d'un certain niveau de compétence, ou plutôt de grade, on ne peut plus monter, c'est un système qui va pourrir, forcément, qui va décliner et qui va se casser la figure.
Forcément.
Et c'est tout à fait sensible à la sécurité sociale. C'est vrai que le gars de 30 ans qui dit « j'ai encore 35 ans de boulot à tirer, je ne vais pas voir ma... »
Il n'est plus à 65 ans, enfin bon.
30 ans, je ne sais pas.
Pardonnez-moi de vous interrompre, mais je crois que vous posez le vrai problème, mais je pense que finalement nous avons peut-être tort de le poser en nous adressant aux individus qui sont dans ce système. Parce que eux, finalement, ils sont un peu les victimes de ce système. Je crois que ceux à qui il faut s'en prendre, c'est aux instigateurs du système.
Oui, tout à fait.
Donc,
on est en démocratie, il faut convaincre les individus entendu, de ne plus voter pour les mêmes instigateurs.
Vous avez raison, mais je veux dire par là que quand on a institué la sécurité sociale, il peut paraître très antisocial de le dire. Personnellement, je n'encours pas ce reproche. J'ai été pendant 11 ans administrateur de la sécurité sociale et je n'ai pas la moindre teinture d'antisocial. Mais en fait, lorsqu'on a institué ce régime, il faut savoir que l'on a instillé dans les veines de ce pays un poison qui petit à petit s'est développé. Oui. Et qui a fait que les Français ont fini par perdre le goût du travail et de l'effort. Et c'est probablement cela qui est la cause de la grande crise actuelle que nous traversons. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que les années, et peut-être même les mois, vont se passer, les effets pervers de cette démoralisation des citoyens vont se faire sentir de plus en plus et qu'on va arriver à une situation qui va ressembler à Orange Mécanique dans ce pays. Quand il y a 10 ans, ce film est sorti, à peu près 10 ans, je crois.
20 ans maintenant.
20 ans, excusez-moi, je ne vois pas le temps passer.
Et ça va vite.
On s'était dit, mais mon Dieu, voilà un auteur de beaucoup de talent, Stanley Kubrick, mais enfin qui imagine un monde qui n'arrivera jamais. Eh bien, regardez ce qui se passe autour de nous actuellement. On est en train de
vous parler. Et je vais juste faire une petite citation. On parlait de ce qu'il y a 20 ans. Là, je vais lire ce qui se passait il y a 20 siècles. Le peuple est affamé parce que ses dirigeants l'accablent d'impôts. Voilà ce qui l'affame. Le peuple est indocile parce que ses dirigeants sont trop entreprenants. Cela le rend indocile. Ailleurs. Plus il y a d'interdits et de prohibitions, plus le peuple s'appauvrit. Plus on possède d'armes tranchantes, plus le désordre sévit. Ça fait penser à l'Amérique. Plus se développe l'intelligence fabricatrice, plus en découlent d'étranges produits. Plus se multiplient les lois et les ordonnances, plus foisonnent les voleurs et les bandits.
C'est fantastique.
L'ancêtre du vrai libéralisme, c'est Lao Tzu qui vivait 6 siècles avant le Christ.
C'est fantastique. Mais je crois que ce que disait le docteur
ça veut dire qu'il y a 20 ans qu'on connaît...
Non, 20 siècles.
Qu'on connaît, oui, juste lapsus. Qu'on connaît les causes de la maladie,
ouais. On l'a pas encore
c'est le remède qui est pire que le mal, c'est vieux comme le monde. Hein, ça,
mais
c'est sûr.
Dans ce que disait le docteur Reichmann, je retiens, moi, on vient tout de suite, tout à fait à mon sujet, et peut-être même à ce que je voudrais dire avant de partir, c'est que nous vivons dans un système qui est devenu un système d'assistance. C'est ce que vous disiez, donc on assiste les gens en permanence, et tu me disais tout à l'heure que les socialistes les jugeaient incapables de gérer leur vie. Et de gérer la vie de leur famille. Voilà comment sont considérés les salariés par les socialistes.
Non, ils sont drogués.
Alors que ce qu'il faut que nous fassions...
Je peux vous interrompre une seconde, pas par les socialistes, par tous les étatistes.
Soyons généreux.
C'est antérieur aux socialistes.
Non, il faut que
tous les je suis arrivé en retard peut-être.
Voilà, oui, parce que j'ai précisé qu'il s'agissait des socialistes triomphants et rampants.
D'accord.
J'ai associé Monsieur Barr, votre ami. Je l'ai associé, et croyez-moi, je l'ai pas oublié. Et que puisque nous considérons
toujours pour toi, Pierre Descartes.
Oui.
Avec Barr, non, je ne le serai jamais parce qu'il a été extrêmement néfaste pour
c'est
l'économie.
Pierre-Louis qui parle.
Et il a été néfaste pour l'économie.
Je dirai ce que j'ai à en dire plus tard.
Partant du principe, nous, que l'homme est responsable et que c'est lui qui fera les bons choix pour lui-même et pour sa famille, à la place de l'assistance, nous devons instaurer un système de protection sociale par l'assurance. Et à la place du monopole public qui sévit actuellement et qui est source de gabegie, comme l'indiquait Serge Martinez, eh bien, il faut la concurrence. Concurrence, caisse publique, caisse privée, mutuelle. Et d'ailleurs, j'ai vu que dans le domaine de la retraite, qui est un domaine qui va être en faillite, et là, vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous avez fait des études là-dessus, dans le domaine de la retraite, il y a déjà des compagnies d'assurance qui ont fait des études, qui ont proposé des solutions. car la retraite par répartition, elle est condamnée à disparaître.
Alors,
à la faillite.
Pierre, à propos de ça, un auditeur nous dit, nous pose la question, que pensez-vous de la gigantesque faillite des caisses sociales privées aux États-Unis? Est-ce que ça ne devrait pas dissuader ceux qui préconisent une assurance volontaire en France?
Je ne sais pas aux États-Unis, je n'aime pas parler des choses que je connais pas, mais je connais des caisses privées en France qui ont très bien marché. On a même essayé de les absorber, et je parle des caisses de retraite de cadres que l'on a voulu absorber. Il y a des caisses de retraite aussi.
Peut-être que l'auditeur confond avec les caisses d'épargne.
Oui, peut-être.
Les caisses d'épargne, effectivement, sont en faillite, mais pour d'autres raisons.
Non, mais il y a quand même une différence entre le capitalisme sauvage, sans règles, sans foi ni loi, et le socialisme. Il y a quand même des intermédiaires. C'est-à-dire que il n'est pas possible, évidemment, de laisser n'importe quelle caisse encaisser des sommes considérables qui seraient représentées par les prélèvements, enfin par les cotisations dans ce cas-là, sans contrôle, sans cadre, sans moyen de contrôle ou de protection. Mais ceci étant, la concurrence, car c'est ça ce qui est important, la concurrence impliquerait que chacune de ces caisses serait obligée d'offrir des performances et des prix meilleurs que les autres, sous peine d'être désertée par ses clients qui iraient dans celle qui est meilleure. Et par conséquent, on l'a vu partout, et je crois que même notre cher ce monde communiste est en train de revenir vers la concurrence, car c'est la seule chose qui permet d'améliorer la compétitivité, la bonne volonté, l'efficacité des gens.
Moi, je suis tout à fait surpris de voir qu'au bout de, je crois, 30 ans ou 40 ans, on n'a pas encore appliqué le plan Saltiel, qui est la chose la plus prodigieusement intelligente que j'ai entendue sur la protection sociale en général. Voilà un homme qui est, pas n'importe qui, il s'en fout beaucoup, qui s'est présenté partout, qui a été reçu par le général de Gaulle, qui a été reçu par Pompidou. À chaque fois, on lui a expliqué en long, en large et en travers que son idée était absolument géniale et qu'on allait passer à l'application dans les semaines qui suivaient avant qu'il soit l'heure d'un cochon de lait. Et puis à chaque fois, on a mis un couvercle sur l'affaire et on s'en est plus occupé. Or, c'est extraordinaire parce que si on regarde ce que Saltiel a inventé et si on fait des simulations, on voit le résultat. En gros, ce que dit Saltiel, c'est que on transforme le compte sécurité sociale, enfin le compte social de chacun en compte individuel comme un compte en banque, que chacun paye ses dépenses de santé, ses dépenses sociales sur ce compte en banque. S'il reste de l'argent, au bout de 5 ans, on lui rend la première année d'économie. Et l'argent est placé dans le circuit normal. Bon.
Ça n'abordait qu'un aspect du problème, à savoir le gâchis également qu'il faut constater au niveau des soins sociaux, car il y a des abus.
Maladie.
Ça ne règle pas le problème de la machine qui consomme trop, car en fait on a un moteur, une machine de gestion qui est trop lourde.
Ça y participerait à ce règlement, parce que je pense que les assurés sociaux ne seraient pas d'accord pour qu'il y ait 180 000 employés dans leur banque de...
Oui, mais on les anesthésie, les assurés sociaux. Nous avons, c'est dit une fois pour toutes, le meilleur système de protection du monde. Oui. D'ailleurs, en France, on a toujours tout meilleur au monde.
Alors, il est tellement meilleur que
c'est le plus pour
personne. C'est pour ça que personne d'ailleurs ne l'a adopté.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est la raison.
Comme beaucoup d'autres choses.
C'est régénérateur. Pierre, je crois que tu es obligé de partir, puisque tu as une
réunion.
Amiens.
Est-ce que je peux, avant qu'il ne parte, je connais très bien Pierre Descaves, lui dire qu'il se trompe très certainement sur Raymond Barre. Je ne suis pas là pour défendre Raymond Barre. Il est assez grand garçon.
On peut entamer un débat
sur les théories.
Il n'est pas prévu ce soir.
Mais Pierre Descaves lise la préface que Raymond Barre a bien voulu me donner, il s'apercevra que Raymond Barre exprime sur les sujets dont nous parlons aujourd'hui des idées qui vous surprendront sans doute et qui vous donneront peut-être une autre image.
Oui, mais la part de prélèvement est passée de 35 à 43% sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing.
Attendez, mes enfants, on ne va pas ouvrir ce soir.
Ils ont des idées, mais ils les appliquent pas. Voilà ce qui
Pierre,
est dommage.
Puisque le docteur Eichmann t'a proposé d'avoir avec lui un débat sur Raymond Barre, est-il un vrai libéral ou pas? Je crois que c'est ça.
Volontiers.
Moi, je vous propose de le faire un soir.
On va faire
un mois, deux mois. Et puis, à ce moment-là, le ring sera clos. Vous pourrez débattre dans toutes
mais
les
règles. Mais pas se battre.
Et moi, je demande à y intervenir pour parler des avions renifleurs.
Mon cher Figura,
je demande à ne pas y être, car je préfère parler du futur que du passé. Mon bar pour moi.
Oui, c'est fini. Le bar, il est mort. Qu'est-ce que c'est que ta question de auditeur?
C'est une question qui est plutôt rigolote. Ils disent, quand vous aurez supprimé les 180 000 employés de la Sécurité sociale, qu'est-ce que vous en ferez? Je crois la réponse.
Ah, mais c'est très...
Des chômeurs.
Des travailleurs.
travailleurs actifs qui produiront.
Voilà. C'est car nous sommes effectivement, chose. Nous avons un record, et là je crois que nous pouvons dire effectivement que nous sommes un des payeurs, meilleurs pays du monde, le plus fort, c'est de la production de paperasse. Alors, comme malheureusement on n'a jamais trouvé la manière d'exporter les papiers, les formalités, etc., ça nous coûte beaucoup. Je crois qu'un employé de la Sécurité sociale rapporterait plus en faisant des produits qui se vendent, et par conséquent gagnerait plus au bénéfice de tout le monde.
Et Lyautey voulait déjà qu'on entre dans les ministères, qu'on jette toute la paperasse par la fenêtre et qu'on y mette le feu.
Lyautey ?
Lyautey, oui.
Mais que n'a-t-il pris le pouvoir ?
Hélas.
Merci mon cher Pierre. Alors je rappelle aux auditeurs de la région d'Amiens, qui doivent être assez nombreux certainement, puisqu'on en a jusqu'à Fontainebleau.
Il y a Carlang qui vient.
Alors il y a une réunion avec Carlang qui se passe. À quelle heure? À
20h30?
Fais-moi la grâce d'être prudent sur la route.
Oui,
dîner débat avec Carl Lang dans la Somme près de Rouen. Bon, mais tout doit être réservé.
Oui.
Tes conceptions en matière de politique sociale.
Merci de m'avoir reçu.
Bon, c'est la moindre des choses. Serge Martinez, merci. Tu restes avec nous.
Quelques minutes.
Voilà.
Sur ce sujet, je vais encore citer la Haute-Seu. On doit gouverner un grand État comme on fait frire un petit poisson. Parce qu'on sait que si on remue trop avec la cuillère le petit poisson, ben il s'effrite totalement. Frite. Donc le moins on touche aux choses, le plus on laisse la nature humaine s'harmoniser, le plus cela marche. C'est très important parce que c'est une idée traditionnelle que l'on retrouve dans la fable de Mandeville, qui a beaucoup inspiré les libéraux à la fin du XVIIIe siècle. Mandeville écrit une fable qui s'appelle La Ruche, et il dit « Si en toute part le vice s'installe, le tout est un paradis véritable ». Autrement dit, si on n'essaye pas de réguler, il ne faut pas évidemment aller dans le système américain, mais le système américain régule énormément aussi. Hein. C'est un système juridique, il y a 500 000 avocats, je crois, aux États-Unis, c'est complètement inimaginable. C'est un pays qui est totalitaire, finalement, dans son fonctionnement, beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Maintenant, on fait un procès parce qu'un feu rouge n'a pas fonctionné, parce que son coiffeur vous a raté la coiffure, il y a une actrice qui avait réclamé 4 millions de dollars d'indemnité. Donc, Mandeville rappelle l'idée que de laisser la nature humaine et de faire confiance aux gens, c'est le meilleur moyen de produire le plus. Et ce qui a sauvé l'Allemagne en 45 comme le Japon, c'est que ce sont deux pays à qui on a assigné un système totalement libéral, alors que l'Angleterre découvrait avec le lord de l'époque... le père de la sécu sociale anglaise, ça me reviendra plus tard, from Rome to tomb, donc régler le sort de l'individu du berceau jusqu'à la mort. Aux États-Unis, c'était le New Deal et c'était quand même déjà du socialisme avec Truman et ensuite ça n'a fait que s'amplifier. Et en France, on a vu ce que ça a été dès 46, la planification de Jean Monnet qui avait été inspirée du modèle soviétique parce que Monnet était allé divorcer de sa première femme et épouser une Italienne en 34 en Union soviétique et il s'était inspiré de la planification stalinienne du même coup. Petite cause, grand effet. Grands effets, et donc
la nocivité du divorce.
C'est ça, et le paradoxe, donc, c'est qu'on se retrouve 45 ans plus tard à ce que les deux anciennes puissances totalitaires, l'Allemagne et le Japon, sont aujourd'hui les deux puissances économiques libérales, et que les puissances anglo-saxonnes et françaises, qui sont les inventeurs depuis la fin du XVIIIe siècle du modèle libéral-démocrate, sont devenus des pays étatistes et bureaucratiques.
Très bien. Bravo. Il est brillant ce garçon. C'est pour ça que je lui demande de venir tous les mercredis, parce que c'est le seul qui soit réellement intelligent et cultivé dans cette. Je ne parle pas pour vous, mon cher André, qui est un puits de science, ni pour Serge Martinez, qui est mon patron, donc forcément meilleur que tout le monde. Je voudrais vous lire une chose très courte qu'un auditeur nous envoie par fax, car je vous rappelle que vous pouvez faxer au 46 51 21 82 ce que vous voulez. Et lui, il a eu l'excellente idée de lire, ce qu'on ne fait pas assez, je dois dire, le Figaro économique. Et alors, aujourd'hui, c'est lundi, en page 2 du Figaro économique, on lit la chose suivante. C'est extraordinaire, on ne lit pas assez les journaux, je vous le dis, notamment Minute. Mais là, c'est dans Figaro. La commission trilatérale qui se réunit durant ce week-end à Venise va beaucoup parler de l'avenir du pétrole à propos de la crise du Golfe. Le problème, deux points. Comment arriver à un juste prix du brut ? C'est-à-dire, assez haut pour être rémunérateur pour les compagnies et les États, mais assez bas pour décourager les investissements massifs dans des énergies de substitution. Mmh. Et notre auditeur souligne ça et indique, commente, il ne se cache même plus. C'est extraordinaire. Les assassins de Conrad Killian remettent ça à leur manière. Et dans un autre domaine. Et pour le reste, alors, et il continue dans la page 3 du Figaro, il y a un article intitulé « La voiture électrique ». Pour le reste, il est troublant de constater que la voiture électrique, contrairement aux automobiles fonctionnant au fuel et à l'essence, n'a guère fait de progrès marquants malgré trois crises pétrolières. De plus, le rapprochement des chiffres est cruel. S'il était exact que le pétrole flambait et qu'il fallait se tourner vers d'autres énergies, alors peut-être pourrait-on envisager effectivement une action de grande ampleur sur la voiture électrique, de la même façon qu'on a lancé en 1974, après le quadruplement du prix du brut et l'embargo, le programme civil électronucléaire.
Une autre fois, je vous raconterai l'affaire Maconin. J'ai pas mal connu Maconin, qui avait inventé un carburant ininflammable et dont on n'a jamais voulu le laisser...
Il y a aussi l'inventeur de la boussole antimagnétique.
Non, mais Maconin, c'était sérieux.
Non, je vous taquine. Le fondateur de la Sécurité sociale, mon petit Nicolas, je vous le dis, prenez-le pour ce que ça vaut, c'est Lord Beveridge.
Beveridge, c'est ça.
Voilà. Alors, vous me ferez plaisir de réviser...
Bravo à nos auditeurs.
Mais il ne fallait pas dire, j'essayais de faire croire que c'était moi.
Excuse-moi.
Bien, mon cher André, nous allons faire entrer dans ces bureaux, si Philippe veut bien, dans ces bureaux, dans ce studio, si Philippe veut bien les y inviter, messieurs Wurmeling et Saliou, et nous allons faire une petite... nous allons consacrer un petit moment de cette émission au problème de l'Église, au problème, à la question de l'Église, ou aux questions relatives à l'Église. Alors, je crois que je vais vous laisser ouvrir le feu, puisque vous avez des choses désagréables à dire sur les curetons conciliaires, et moi j'aime bien qu'on dise des choses désagréables sur les curetons conciliaires, puisque vous savez que si j'appelle des curetons, c'est parce qu'ils sont conciliaires, les autres, je les appelle des curés. Mais c'est mon langage à moi, parce que je suis grossier et discourtois. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez eu un contact spécial avec...
Oui, j'ai passé 48 heures dans un pays absolument merveilleux, qui est l'archidoyenné de Langon, c'est-à-dire 20 kilomètres de rayon autour du château de Malagar, qui était la propriété de François Mauriac, et comme vignoble, l'Entre-deux-Mers, le Sainte-Croix-du-Mont, le Sauterne.
Serge Martinez s'en va, quand on commence à parler de Sauterne.
Oui, ça ne l'intéresse plus, ou trop.
Monsieur Saliou, veuillez vous asseoir. Cher monsieur, prenez donc place.
Mais ça n'est pas Vermeulen.
Non, je vois ça. Je vois. C'est pour ça que j'ai dit cher monsieur. J'ai une surprise. C'est monsieur, monsieur.
Bon, et alors, j'ai appris beaucoup de choses très, très regrettables. J'ai hésité s'il fallait les dire. Je crois qu'il faut tout de même qu'on sache certaines choses.
Alors, André, est-ce que vous me permettez de dire un mot juste avant?
Plusieurs.
Après, parce que je crois que ce que je vais dire va montrer à quel niveau on en est arrivé. Et ce que vous direz ensuite, à mon sens, n'en prendra que plus de relief. J'ai reçu ce matin un document adressé par un mouvement qui s'appelle la jeunesse étudiante chrétienne. Mmh. Il s'agit de l'annonce de l'Assemblée générale de la jeunesse étudiante chrétienne, la GEC, qui va se dérouler à Évry les 1er, 2 et 3 novembre. Alors, ce document est à l'usage des journalistes. Il se présente sous la forme d'un tract de grand format, à peu près 2 x 21-29-7, qui est illustré, d'un côté, d'une photographie, et de l'autre, de quelques réflexions, et du programme de cette Assemblée Générale. Parmi les réflexions, il y a trois questions relatives à ce que pense la GEC. En gros, l'évangélisation est un échec. Deuxièmement, le message de l'évangile est quelque chose de tout à fait relatif. En gros, le catholicisme est une religion comme une autre. Et puis troisièmement, j'ai oublié, mais c'est du même tabac. Et la photographie, une grande photographie tirée en grand format comme ça, qui illustre le verso, ou le recto plus exactement, de ce document, c'est une... Alors, éloignez les enfants des récepteurs, s'il vous plaît. Je vais essayer d'être explicite sans être trop grossier, c'est une jeune fille qui est dans un endroit où on se rend généralement seul, dans la position dans laquelle on se met dans cet endroit, le pantalon sur les chevilles, et qui est en train de méditer, la main sur le poing. Alors j'ai téléphoné à la GEC, à Paris, pour leur dire, écoutez, ça me paraît quand même un petit peu curieux comme choix d'illustration, pour un document émanant de la jeunesse étudiante chrétienne. C'est un organisme chrétien, je crois, enfin je sais pas, encore qu'ils prennent soin de préciser que tous les jeunes, quelle que soit leur religion, même s'ils sont athées, sont bienvenus à la GEC. Donc, ils m'ont dit, je suis tombé sur un responsable, qui m'a dit non, c'est la commission médiatisation qui a eu cette idée, on a trouvé ça très rigolo et au fond assez provocateur. Voilà où on en est. Alors, naturellement, il ne va pas se trouver un seul évêque
pour protester. Je veux dire, c'est d'une telle ignominie, cette photo. C'est grotesque, c'est cacaboudin, comme on dit à la maternelle. C'est du niveau de la provocation maternelle. Ces imbéciles de curetons de gauche, ils n'ont pas encore compris que ça fait 20 ans qu'on fait plus de provocations comme ça. Ça, c'est la provocation harakiri des années 60.
Oui.
Et eux, ils veulent faire moderne, et ils ont toujours 25 ans de retard. C'est une malédiction qu'ils ont sur les épaules, une génération de retard. Les militaires en France ont une guerre de retard, enfin les militaires, les politiques ont une guerre de retard, et les curetons, ils ont une génération de retard. Ça ne rate jamais. Alors là, ils font de la provoque, en montrant une jeune fille de 18 ans, dans les cabinets, en photographie sur un document censé présenter les activités de la GEC. Donc je découvre que la jeunesse étudiante chrétienne passe son temps probablement à l'endroit ci-dessus nommé. Voilà. Alors quand on voit que cette église en est à ce stade, on se dit que vraiment tout ce que vous allez nous raconter maintenant ne peut étonner personne.
Alors j'y vais. Le 14 mars 88... Le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné un monsieur Merlet à 18 mois de prison avec sursis pour attentat à la pudeur sur 17 fillettes du catéchisme qu'il était chargé de faire. Or, si vous prenez l'ordo 1990 de l'archidiocèse de Bordeaux, vous verrez à la rubrique de la pastorale catéchétique, ce qui est difficile à dire sans éternuer, que ce nommé Merlet est chargé de la pastorale catéchétique de la petite enfance. Et en même temps, souvent, lors des offices, il fait les lectures et quelquefois même il distribue la communion. Premier point. Dans la basilique de Verdelet, qui est une très belle basilique, où il y avait autrefois un pèlerinage tous les jours, il y a eu des charismatiques qui ont été chargés de l'office dans cette basilique. Il confessait les jeunes filles assis côte à côte sur un canapé. Et si même ainsi ces malheureuses avaient de la difficulté à raconter leurs péchés, ces curés, ces curetons, ces ratichons, ce que vous voudrez, les prenaient sur leurs genoux. Et quand l'un de ces prêtres était tout seul, un officier qui n'avait pas de sacristain, au moment de la quête, il prenait deux corbeilles qu'il donnait au premier rang de l'assistance. Les corbeilles circulaient, les gens mettaient leurs offrandes, ça revenait, ça n'a rien d'extraordinaire. Le prêtre, si tant est qu'il le soit, ou qu'on puisse l'appeler de la sorte, récupérait les corbeilles, il les vidait sur l'autel, il y flanquait des hosties supposées consacrées, il les redonnait au premier rang et ça recirculait, et les gens, au lieu de mettre leur offrande, piquaient une hostie. À Bègle, je donne les précisions parce que j'avais pensé à ne donner que des initiales, mais on a l'air de faire. Il faut dire les choses.
Abbé, le curé Z, ça n'a aucun sens.
À Bègle, deux jeunes gens, deux fiancés, se présentent au curé pour la préparation au mariage. Ça a été très court. Le curé leur a dit « Est-ce que vous avez couché ensemble ?»« Non, mon père. »« Eh bien, commencez donc par ça, on verra la suite après. » Ça a été fini.
Ça me rassure parce que je pense qu'il n'y aura plus assez de place en enfer. Donc j'ai une chance de rester à la porte.
Le curé doyen de Bazas, qui était de la cathédrale de Bazas, qui était un homme assez âgé, avait une maîtresse beaucoup plus jeune que lui, qui était fonctionnaire. Elle est nommée à Montpellier. Alors pour pouvoir la suivre, il s'est dit au fond le plus simple, c'est demander ma réduction à l'état laïque, qui lui a été accordée pour immaturité. Curé doyen Bazas s'est réduit à l'état laïque pour immaturité.
Quel âge il a ?
Oh ben, il avait au moins 60 et quelques années. Et alors, il l'a suivi à Montpellier, ils se sont mariés. Et quelques années après, elle a été renommée à Bazas. Ils sont donc revenus et il est allé assister à la messe au premier rang. Il s'est proposé pour faire la quête. Entre-temps, son vicaire avait aussi demandé sa réduction à l'état laïque. Alors, on avait dit pourquoi ? Ben, parce que j'ai deux enfants, il faut tout de même que je m'en occupe. On lui a refusé sa réduction à l'état laïque. Alors, il a défroqué. Et dans tout cela, il ne semble pas que l'archevêque ait jamais trouvé matière à intervenir, à réagir. Mais il vient enfin de réagir. Il vient enfin de réagir parce que un certain nombre de jeunes ménages se sont cotisés et ont racheté une église du XIe siècle, où pendant 600 ans la messe avait été célébrée, qui a été désaffectée à la Révolution, et qui depuis servait de grange à fourrage et était d'ailleurs très mal entretenue. Et ils ont passé tout leur week-end à la dégager, à la nettoyer. Ils y ont refait un dallage. Ils sont en train d'y remettre les vitraux. Alors là, l'archevêque de Bordeaux a enfin réagi pour faire savoir qu'il interdisait qu'on dise la messe dans cette église.
Ah bon ?
Vous me rassurez.
Alors, au moins, un homme qui a de l'autorité.
J'étais un petit peu inquiet, quand même.
Et ma dernière anecdote se transporte. Elle se transporte, Monsieur Saliou, dans une région que vous connaissez pas mal, dans le Tarn-et-Garonne. Et Monseigneur Saint-Blanca, voyant le père Vladimir, qui a une communauté à Moissac, lui a dit, en vous promenant dans les rues de Moissac dans cet habit, vous créez le scandale. Et le père Vladimir lui a répondu, Monseigneur, en 20 ans, 17 prêtres ont défroqué à Moissac. Alors est-ce que ce ne serait pas plutôt cela le scandale? Voilà, je vous ai raconté ces petites histoires.
Ça fait
je pense qu'il fallait les dire. C'est
ça
pas
fait
drôle.
Exactement penser aux conclusions du livre du frère Michel de la Trinité sur Fatima, l'énorme œuvre admirable travail du frère Michel de la Trinité sur Fatima, qui conclut que le troisième secret de Fatima, c'est l'apostasie des clercs.
Ouais.
Et on est en plein, là, tout ce que vous nous racontez, c'est stupéfiant, c'est à la fois
alors,
stupéfiant, bouleversant,
effrayant. Pourquoi ? Parce que, ou bien j'ai les documents, ou bien j'ai des témoignages recoupés. Et ces témoignages de gens qui sont dans l'Église visible, qui sont par conséquent ne sont pas des gens ayant l'intention de la décrier, mais qui sont scandalisés par ce qu'ils voient. Alors, évidemment, on peut à la rigueur espérer que cette zone si typiquement mauriacienne est un peu imprégnée de l'esprit d'une vipère. Je ne sais pas, je n'ai pas pour l'instant d'autres exemples pareils dans d'autres diocèses,
j'espère qu'il
y en a moins.
Il y a un endroit où on trouve ces exemples très régulièrement, c'est l'excellente lettre confidentielle de notre ami Marc Dem, qui publie régulièrement des choses ébouriffantes dans ce genre.
Il y avait déjà
s'appelle
eu
Iota
tous les livres de Michel de Saint-Pierre, Le ver est dans le fruit, etc. Voilà, mais depuis, ça a cru et embelli, oui.
Merci, mon cher André. Alors, après avoir exposé le mal, nous allons étudier deux remèdes avec M. Vermeline, qui vient de faire son entrée, après M. Bischoff, d'ailleurs, et puis avec M. Saliou. Mais tout d'abord, nous allons écouter un de ces admirables bobineaux dont notre studio a le secret.
Pom, 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 pom. Est-ce un appel à la résistance, Anne Brassier ?
Oui, Jacques Lerat, Radio Courtoisie résiste depuis 3 ans déjà, envers et contre tout. Elle fêtera son 3e anniversaire le 7 novembre prochain.
Le 7 novembre, désormais, on fête à la fois la langue française et Radio Courtoisie.
Nous nous retrouverons à 20h pour dîner à la Mutualité comme l'année dernière.
Faut-il réserver ?
Bien sûr, et le plus tôt possible, pour éviter les encombrements de dernière heure et pour être sûr d'avoir une place.
Comment réserver ?
En envoyant 220 francs par couvert ou 190 francs seulement si l'on est adhérent de notre association.
220 francs et 190 francs seulement pour les adhérents.
Oui. Pour recevoir votre billet, envoyez votre chèque avec une enveloppe timbrée à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Nous vous donnons rendez-vous pour dîner le 7 novembre.
Et prend dans l'espérance et des âmes soit fidèle soutien. Mais le marteau, l'ennemi nous agresse et complote pour que France disparaisse. Nous voulons ce que Dieu veut pour la France, un État plus juste, digne et chrétien.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national sur 95.6 MHz. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct le mercredi 24 octobre de 18 à 21h et en différé le 25 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Laurent. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association pour l'année 90. La cotisation minimum est de 200 francs. Adressez votre chèque.